Alors bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas salués ce matin. Donc nous voici avec la, je dirais pas la charge, mais plutôt la grâce qui m'a été faite de vous apporter la prédication de ce matin. Et j'en suis d'autant plus fier que je vois le Saint-Esprit à l'œuvre du début à la fin de ce culte. Et je peux vous dire que ça me réjouit le cœur. Parce que vous le verrez par la suite, le sujet que je vais aborder est un sujet pas évident, un sujet à polémique, et honnêtement, au départ, ou même bien avant, je ne pensais pas pouvoir ou vouloir, je ne voulais pas aborder un tel sujet devant vous, qui est un sujet quand même particulièrement fort pour moi, mais le Seigneur m'y a vraiment conduit, vraiment, d'une façon prolongée. Et ce matin encore, eh bien, j'ai la confirmation que c'est bien ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voudrais dire pourquoi je pense que c'est conduit. Tout d'abord, le premier verset que tu as cité, je crois que c'est dans Romains, c'est ça ? Où il est dit que rien ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Rien, absolument rien. Ni la vie, ni la mort, ni les puissances d'ailleurs. Rien ne peut nous séparer de son amour. Et je dirais même par la suite... je dirais même par extrapolation, et de son amour qui nous conduit au salut éternel dans sa présence. Ensuite, nous avons vu dans les chants, et là c'est pareil, je me dis, mais vu que tu avais remarqué, il y a vraiment un fil conducteur du début à la fin. Tous les chants que nous avons chantés sont vraiment dans la direction du message que je vais vous apporter, quand il est question de fidélité, quand il est question... de suivre le chemin, quand il est question d'avoir Jésus en soi, c'est la totalité du message que je vais vous apporter. Donc merci au Seigneur, je vais prier rapidement avant d'introduire, avant de commencer ce message. Père, tout d'abord te dire merci parce que nous sommes ici encore ce matin, et si nous sommes là, ce n'est vraiment pas grâce à nous, et je dirais chaque fois, c'est vraiment toi qui suscites ce désir de te suivre, de marcher avec toi, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et sois béni pour ça, parce que nous savons que c'est le seul chemin, le vrai chemin qui mène à la paix, à la joie, au bonheur et à la vie éternelle. Sois béni pour ces temps. Guide-moi dans ce message, que je puisse vraiment avoir les paroles qu'il faut. Ouvre le cœur de chacun, Seigneur, pour que nous puissions vraiment saisir la dimension et le poids du message que tu veux nous apporter ce matin. Sois béni et que toute la grâce, toute la puissance et toute la gloire te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons donc commencer par faire la lecture du passage que nous avons à étudier. Donc, comme vous le savez, nous avons donc l'habitude en ce moment de faire une étude chapitre après chapitre de l'Évangile de Jean. Et donc nous en étions arrivés au chapitre 6 de l'Évangile de Jean, des versets 51 à 71. Donc nous allons faire la lecture et nous étudierons ces passages par la suite. Donc Jean 6, 51 à 71. Ah si tu veux, ouais, ouais. Voilà, donc nous avons des amis... nous avons des amis hollandais qui nous ont rendu visite et apparemment José a trouvé une traduction, donc c'est très bien. Donc ça sera jusqu'au verset 51-71. Donc je vais lire. Donc ma traduction, c'est la version second 21, donc la dernière version avec les mots simplifiés, mais un texte vraiment toujours le plus proche des originaux. Jésus parle, il dit ceci: « Je suis le pain de la vie. » Pardon, 51, autant pour moi. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux en disant: « Mais comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit: « En vérité, je vous le dis, Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment le pain est descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet et il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. » Les paroles que je vous dis sont « Esprit et vie ». Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Le verset 51, je le relis. « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Verset 65. « Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Je reprends volontairement ces deux versets car il me semble qu'ils résument exactement le message de l'ensemble des passages que nous avons lus. Trois choses essentielles ressortent de ces textes. Tout d'abord, l'image du Christ. L'image du Christ comme étant le pain de vie. Cette image a été développée dans les messages précédents, pour ceux qui étaient là. Vous avez déjà entendu à ce propos. Et je rajouterai qu'au verset 55, Jésus-Christ précise une chose. Il précise que sa chair est vraiment une nourriture et son sang vraiment une boisson. C'est évidemment spirituellement qu'il faut l'entendre. Et avec le recul que nous avons aujourd'hui, nous savons qu'il a annoncé son sacrifice prochain au bénéfice de notre salut. L'image du corps du Christ à manger peut nous faire penser à la Sainte Cène lors de la Pâque. Souvenez-vous, le peuple juif à l'époque, on retrouve ça dans Exode, était sous l'emprise des Égyptiens. Et donc ils étaient en esclavage en fait. Voilà. Et pendant des années, de nombreuses années, le peuple criait à Dieu, délivre-nous, délivre-nous. Et c'est par le biais de Moïse, et notamment les 10 plaies, que le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, les a délivrés, notamment avec la dernière plaie, la 10e, où il a mis, où il a fait mourir tous les premiers-nés qui se trouvaient dans les pays. Et à ce moment-là, ils avaient reçu, donc le peuple juif, le peuple de Dieu, avait reçu une consigne, un ordre, pour pouvoir vivre, être épargné de cette plaie terrible. Ils devaient tuer un agneau saint, pur, sans tache, utiliser le sang et le mettre à l'entrée de leur porte, et ensuite manger cet animal entièrement. Pourquoi ce sang ? Parce que l'ange exterminateur qui allait passer à ce moment-là sur ce territoire épargnerait toutes les maisons où il verrait le sang de l'agneau sacrifié, le sang qui les protège de la mort. Donc effectivement, la Pâque signifie donc épargner. Je dirais notre Pâque à nous, chrétiens, l'agneau pascal, comme on dit, c'est le sacrifice, bien sûr, de Jésus-Christ qui reprend un petit peu cette image, mais avec une connotation éternelle et universelle, qui se sacrifie pour nos péchés, son corps, sa chair, nous nourrit, nous donne la vie, et son sang nous lave, nous purifie de nos péchés. Une lecture sur Luc 22, 19, qui nous rappelle un petit peu ce moment-là, où il est dit ceci. Ensuite, il prit du pain, donc c'est Jésus, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. » De plus, en mettant en parallèle les versets 47 et 51, « Manger et croire ont la même résultante, la vie éternelle. Ainsi donc, celui qui croit en Jésus-Christ se nourrit également de sa parole. » Car Jésus est la parole, il est le Verbe incarné. Juste une chose, puisqu'on fait le parallèle entre Jésus, le pain de vie, et le moment de la Sainte Cène que nous commémorons et que nous allons commémorer après ce message, il s'agit évidemment d'un souvenir, d'une commémoration. Bien évidemment, le fait de manger le pain et le vin ne nous donne pas la vie éternelle. Nous sommes bien d'accord, la vie éternelle, nous la recevons en recevant les paroles et la foi que Jésus-Christ est le Sauveur, notre Seigneur, le Fils de Dieu, et qu'il est mort pour nous. Le deuxième point, c'est le caractère donc éternel et universel de ce don. Auparavant, un seul peuple choisi, le peuple juif. Tous les autres, païens, étaient voués à la perdition. Et là, grâce à Jésus-Christ, le salut est universel. Tout homme qui se tourne vers Jésus reçoit le salut par son pardon et par son sacrifice. Enfin, le troisième point et le dernier point de ce texte que nous avons lu, c'est le moyen d'y parvenir. Le moyen d'y parvenir, l'origine de toute chose, vous l'avez bien compris, c'est le Père. C'est par le Père que nous sommes attirés à Jésus-Christ pour recevoir le salut par Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas, comme à l'accoutumée, procéder en développant chaque point l'un après l'autre de ces passages, car ils me semblent suffisamment clairs par eux-mêmes. D'ailleurs, si tu veux, j'osais le laisser à l'écran, comme ça permet un petit peu de lire le texte en lui-même. Voilà, mais je prendrai simplement quelques versets avec vous que j'ai tirés de ce texte et qui, à la lecture de l'ensemble, relecture, m'ont vraiment frappé. Et j'ai trouvé que donc ce message qui ressortait d'une façon claire et nette était celui de Jésus, le pain de vie, Jésus, le moyen unique du salut, mais en même temps, une assurance que ce salut nous appartient éternellement. Je vais tout d'abord vous donner mon témoignage, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que la théorie comme ça, même si l'Esprit de Dieu nous aide à concevoir certaines choses, peut avoir ses limites d'une certaine mesure, mais le témoignage vivant, vécu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus marquant. Alors évidemment, ça n'engage que moi, puisque c'est ma propre vie, mais je peux vous dire que ce qui va suivre correspond vraiment, vraiment à ce que j'ai vécu. Je me suis converti à l'âge de 15 ans. Donc, l'âge de 15 ans, j'ai entendu un témoin, un jeune garçon, qui avait reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui avait bouleversé sa vie, et ça a été tellement puissant pour moi, donc effectivement j'étais appelé à ce moment-là, que j'ai fait la démarche personnelle de rencontrer ce Jésus et de lui donner ma vie. Malheureusement, à l'âge de 17 ans, je me suis éloigné, et les circonstances ont fait que j'ai dit à Dieu, ben non, moi je ne crois plus en toi, mais si vraiment tu es un Dieu d'amour, un Dieu fidèle et bon, ben, tu viendras me chercher avant que je meure pour éviter la perdition, s'il y en avait une. 7 ans de vie de débauche, je dis bien de vie de débauche, ont suivi. Lorsqu'à l'âge de 24 ans, suite à une soirée, à une rave party, quelqu'un m'a donné des acides et j'ai fait ce qu'on appelle un bad trip, un trip mort. Pour ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler, c'est un moment difficile à vivre et très très angoissant. Certains ne sont jamais revenus de ce voyage et ils sont dans les asiles psychiatriques malheureusement. Donc un bad trip pour résumer, eh bien, j'ai eu en hallucination, pourrait-on dire, j'ai cru que j'étais mort, voilà, que le temps s'était arrêté pour moi. Je vais passer sur les détails, mais en gros, je me retrouve donc à un moment donné face à moi-même. Je croyais que j'étais mort, mais j'étais toujours vivant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crie à qui? Je crie à Dieu. J'ai crié à Dieu, et bien, j'avais pas de réponse. Je n'avais aucune réponse. Et là, je peux vous dire que ça a été le désarroi total. Imaginez-vous, vous mourrez, et suite à ça, vous êtes toujours vivant. Bon, évidemment, pas vivant comme ça. Mais vous êtes tout seul, face à vous-même, avec vous-même, mais tout seul. Insupportable comme idée. Et là, c'est extraordinaire. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Mais Dieu, je me rappelle une chose. Quand j'avais 15 ans, je t'ai donné ma vie. Et même si ma vie, elle n'est pas belle, même si je me suis éloigné de toi, je sais aussi une chose, c'est que tu n'abandonnes pas celui que tu as sauvé. J'avais reçu par révélation que ce salut, il était éternel, quoi que je fasse. C'est alors que je me retrouve en vision devant Jésus-Christ, devant sa croix. Et là, je comprends. Je comprends réellement son sacrifice pour moi. Il était mort pour justement que je puisse saisir cette vie. Et je peux vous dire que je l'ai saisie à deux mains. Et ma vie a complètement changé depuis ce jour-là. Complètement. Deux choses sont devenues évidentes. La première, abandonner la voie dans laquelle je m'étais tourné. Ma vie de péché, de débauche. Et la deuxième, témoigner de la puissance de délivrance et le miracle du salut en Jésus-Christ. Voilà ces deux missions qu'il m'a confiées ce jour-là. Et je peux vous dire que ma vie est extraordinaire. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Évidemment, après cet extraordinaire, j'ai été libéré de tellement de choses, et de la sexualité, et de la pornographie, et de la cigarette, et de la drogue, enfin de tout ça. Vraiment libéré du jour au lendemain. C'était vraiment une puissance que je n'avais jamais connue auparavant, et je peux vous dire qu'elle est extraordinaire. Voilà. Suite à ça, la vie, la marche avec Christ, donc on reçoit le petit lait, et ensuite on grandit, on se nourrit de sa parole chaque jour. À l'âge de 30 ans, une autre crise. J'étais toujours pas marié. Je voulais me marier pour être un bon témoignage, et oui, j'étais un chrétien fermier à l'époque. Et malheureusement, malgré tout, je rechute. Je rencontre une femme, cette femme m'attire dans ses pièges, et je vis une année encore pire que les 7 années que j'avais vécues auparavant. Mon état était pire qu'avant. Pendant 1 an, je peux vous dire que j'ai vécu une vie catastrophique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était vraiment... J'étais aux antipodes de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai eu quand même des petits éclairs dans ces passages où Dieu me disait « Mais tu n'es pas de ce monde, tu es mon fils. Reviens à moi. » Mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. J'ai continué ma vie. Et pourtant, plusieurs fois dans ma vie, dans cette année-là, plusieurs fois il est venu m'appeler. Je ne l'ai pas écouté, je me suis détourné de lui. J'ai continué encore plus dans la luxure. Un an après, il est intervenu dans ma vie. J'ai failli avoir un grave accident de voiture qui aurait pu tuer beaucoup de monde. Et là, il a utilisé ça pour me dire « Maintenant, tu arrêtes. Tu reviens. Tu vas trop loin. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert une chose, la sainteté de Dieu. J'en menais pas large. J'avais connu son amour, sa bonté, mais je ne connaissais pas sa sainteté. Mais là, je peux vous dire, je l'ai connu. Et il m'a remis en place. Il m'a relevé. Et si aujourd'hui, je suis debout devant vous, c'est uniquement et seulement grâce à lui. Voilà, c'est ce petit témoignage que je voulais donner pour vous donner la suite de ce message. Nous allons lire quelques versets. Je vais revenir un petit peu en avant, au verset 39, toujours du chapitre 6. Alors moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui disent « oui, il ne faut pas lire », etc. Moi j'aime bien que la parole soit affichée quand je parle, parce que la foi provient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend provient de la parole de Dieu. Si on lit en même temps, le Seigneur travaille nos cœurs, le Saint-Esprit travaille nos cœurs pour vraiment nous conforter dans notre foi, pour vraiment nous éclairer. Alors voilà. Donc je lis le verset 39. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, à savoir le Père, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Moi, quand je lis ce passage, il n'y a aucune équivoque. Aucune. Qui pourrait dire que Jésus, le Fils de Dieu, ne puisse pas faire l'entière volonté de son Père ? Jésus est Dieu, il est de la même essence. Qui pourrait dire que Jésus pourrait perdre un seul de celui qui lui a donné ? Qui pourrait le dire ? Ben certainement pas moi. Il est mort pour nous, il a payé un grand tribut. Le verset 40. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque, n'importe qui, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est bien dit qu'il ait la vie éternelle, et non pas qu'il puisse avoir la vie éternelle, ou qu'il aura la vie éternelle s'il a fait telle ou telle chose, ou s'il s'est tenu debout jusqu'au bout. Il n'y a pas de condition sur ce verset-là. Il est clair et net. Le verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous avons encore une action conjuguée entre le Père qui appelle, c'est le Père qui appelle, et le Fils qui rend juste, qui sauve, et qui ressuscite au dernier jour. Nous voyons bien que c'est un travail vraiment de Père, entre le Père et de Père, c'est le cas de le dire, entre le Père et le Fils. Le verset 47, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. » Il a la vie éternelle. Le Verbe est au présent. Alors, vous verrez par la suite qu'il y a deux types de présents dans le grec, et je vous les expliquerai un petit peu ce que ça veut dire, mais vous comprendrez. Je vous lis juste un commentaire biblique de MacDonald, qui parle justement du verset 47. Le verset 47 constitue l'une des affirmations les plus claires et les plus concises de toute la parole de Dieu concernant le chemin du salut. Sa déclaration du Seigneur Jésus peut difficilement prêter à confusion. « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Remarquons qu'il introduit cette déclaration capitale par l'expression appuyée « en vérité, je vous le dis ». Il s'agit de l'un des nombreux versets du Nouveau Testament qui enseigne que le salut ne s'obtient ni par les œuvres, ni par l'observance de la loi, ni par l'adhésion à une église, l'obéissance à un dogme, une règle d'or ou quoi que ce soit, mais simplement et uniquement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. D'autres versets, verset 50, « C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. » C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. 51, « Moi je suis le pain vivant descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et le verset 53, Jésus leur dit en vérité, donc il appuie encore le passage, « Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Nous voyons qu'il y a une seule action, cette action, elle est mue par la foi, provoquée justement par le Père qui met ce désir qui nous appelle, ce désir dans notre cœur d'aller vers Christ. Si le Père ne nous appelle pas, on serait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'irait pas vers Jésus. Ça, c'est clair et net. Une seule action mue par la foi, un gain éternel. Le Verbe est utilisé en grec sous la forme aoriste. Alors la forme aoriste, ça veut dire quoi ? C'est une façon de dire un acte déjà passé qui a une conséquence sur la suite. On pourrait employer le passé simple. En gros, ça voudrait dire, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en a mangé ne meure pas. Vous comprenez ? C'est une différence entre nous, on n'a pas cette différence en français. Avec l'autre terme qui serait plutôt un présent continu sur les versets suivants. Par exemple, au 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Là, c'est un présent continu. Ça veut dire qu'en fait, c'est sur la durée. Celui qui mange continuellement. et qui boit mon sang continuellement à la vie éternelle. Vous comprenez un petit peu? Il y a deux choses en fait. Le fait, l'acte premier, qu'on pourrait appeler la conversion, c'est-à-dire le moment où on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la vie éternelle, et la suite qui va derrière, qui fait je suis en train continuellement de croire. Donc deux actions, une action franche, nette et précise, un acte, une décision, comme par exemple le jour où on va se marier, hein, on se marie, on passe devant le maire, on signe, c'est fait. Voilà. Et puis, il y a le mariage alliance qui continue jusqu'à la fin, qui elle, en fait, est une démarche quotidienne. Vous comprenez? On prouve par l'amour qu'on a et par la fidélité avec l'autre qu'on est marié avec. Voilà. C'est une image. Hein. Le verset 54, celui qui m'a chéri et qui boit mon sang à la vie éternelle, je ressusciterai au dernier jour. Le 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ici, donc, on a le verbe demeurer en Christ. Il est nécessaire toujours de se nourrir de sa parole pour demeurer en Christ. Je dis bien ces mots parce que j'ai fait beaucoup de recherches justement sur l'éventualité qu'un chrétien pourrait avoir de perdre le salut. Et tous ces mots, demeure, croire, etc., sont vraiment des thèmes importants dans cette doctrine-là et qui reviennent vraiment. Sauf que les interprétations sont différentes dans le sens où les textes ne sont pas vraiment compris comme ils devraient l'être à l'origine. Le verset 58, toujours dans le même présent continu, « Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Là encore, donc, nous avons une action continue et une conséquence éternelle. Donc, le terme de manger, de croire, qui sont associés les deux mêmes, ont un début, donc un début, un acte avec une conséquence éternelle, mais aussi une continuité par la même. Le verset 63 nous dit ceci, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors c'est une précision, je dirais, non des moindres. C'est uniquement par l'esprit de Dieu que nous avons la révélation des paroles de Jésus. Ça veut dire que si le Père ne nous donne pas cette révélation, nous ne pouvons croire en Jésus. C'est impossible. Humainement, c'est impossible et la Bible nous le dit. C'est un petit peu comme si... Le Père avait mis le Saint-Esprit en nous, ou éclairé, ou peut-être pas encore à ce moment-là, mais en tout cas, une part du Saint-Esprit sur chacun d'entre vous, pour que vous puissiez croire, un petit peu comme c'était un décodeur, vous voyez, un codécodeur, quand on allume le décodeur, au départ l'image est brouillée, on n'a pas la chaîne disponible, et quand le décodeur est allumé, hop, on voit une image claire. Ben, c'est un petit peu la même chose en fait. L'éclairage du Saint-Esprit au moment où le Père attire l'homme, eh bien c'est comme ce décodeur. C'est-à-dire que d'un coup, il allume ce décodeur, et les paroles deviennent claires et touchent les cœurs. Verset 65, c'est pourquoi je vous l'ai dit que nul ne peut venir à moi si ce n'est à lui est donné par le Père. Donc là, on retrouve la même chose, la chronologie, à savoir le Père en premier lieu, puis selon sa volonté, le Fils de Dieu, le Fils Jésus-Christ, qui obéit et continue l'action de rédemption. Verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69, nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Cette révélation est évidemment directement envoyée par le Père aux disciples qui sont restés. C'est la confirmation de ce que Jésus avait dit précédemment. 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» Jésus, en relation permanente avec son Père, reconnaît à la fois ceux qu'il lui a confiés, mais aussi les autres. Puisque la fin du passage, au 71, il nous est dit que Jésus connaissait même celui qui le livrerait, à savoir Judas. Donc on voit quand même, tous les versets que je vous ai lus, sur les textes, que le thème de ce chemin de vie éternelle, cette assurance du salut, semble vraiment sauter aux yeux. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a paru, je ne sais pas vous, à la lecture de ces passages, mais ça me semble tellement clair, tellement évident, il n'y a pas de doute possible. Alors je vais rajouter, bon, j'ai vraiment fait une étude assez approfondie là-dessus, je me suis pris la tête pendant toute la semaine, je peux vous le dire, mais ce n'était pas la première fois, pour vraiment, vraiment sortir la quintessence de tout ça, parce que je peux vous dire que les courants différents, il y en a, les arguments différents, il y en a, et je peux vous dire que, après toutes ces recherches, que je vous encourage à faire si vous n'avez pas la conviction après ce message, hein, et ça, je veux dire, c'est propre à chacun, mais je peux vous dire que je vous encourage à chercher, parce que celui qui cherche trouve, mais vraiment. Alors, je vais vous lire d'autres passages qui un petit peu appuient cette révélation. Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, » donc il parle de la parole Jésus-Christ, « elle a donné, » donc la parole, « le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, » attention, « non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La parole a donné le pouvoir, donc à savoir Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui sont nés, non, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui décide. Dieu est souverain, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, il nous l'a dit encore, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors souvent on se dit, bon évidemment qu'il y a la théorie de comprendre les passages qui disent qu'il faut persévérer toute sa vie, parce que si on ne persévère pas, on risque de perdre son salut. J'ai lu vraiment tous ces passages, et je pense que le sens est tordu en fait. On ne va pas rentrer dans cette démarche-là approfondie. Je vous laisse le soin de le faire, ou si vous voulez, on peut trouver un autre moment pour le faire. Mais en tout cas, j'utilise juste les passages qui sont clairs et nets, parce que pour moi, c'est ça qui est important. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est un cadeau. Et cette grâce, elle vient de Dieu, on est d'accord. Par le moyen de la foi. La moyen de la foi, on l'a vu tout à l'heure. Qui c'est qui provoque la foi? C'est le Père. On l'a lu tout à l'heure. C'est le Père qui nous donne cette foi de croire en son Fils. Voilà. Donc ces deux choses viennent de Dieu et ne viennent pas de nous. Ensuite, il nous est précisé, cela ne vient pas de vous, au cas où on pourrait en douter, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Donc le but, c'est quoi? Le but premier, c'est quoi en fait? Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Évidemment parce qu'il nous aime, mais le but, le vrai but, vous le connaissez? Exactement, pour glorifier le Seigneur, tout à fait. Nous avons été créés pour glorifier Dieu dès aujourd'hui et pour l'éternité. Si vous avez un doute, regardez les écrits anciens, hein, dans la parole, les anges, qu'est-ce qu'ils font les anges? Ben, ils passent leur temps à chanter des louanges et à glorifier Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ferait différemment? La grâce et la foi sont un don de Dieu. L'idée que notre attitude présente ou passée, comme la persévérance pour garder la foi, etc., puisse influer sur la finalité de notre salut, relève donc bien des œuvres et rend ce passage caduc. L'idée que l'on puisse, par notre persévérance personnelle, c'est-à-dire nos efforts personnels, vraiment, à tenir ferme dans la foi, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment qu'il faut le faire, mais ce ne sont pas ces efforts-là qui font que nous serons sauvés à la fin. Et sinon, ça ne serait plus une grâce. Ça serait plus un cadeau. On pourrait se dire, entre guillemets, comme dit le texte, on pourrait se glorifier en se disant, oui, bon, moi je suis sauvé parce que quelque part, moi j'ai forcé, quoi. Moi le matin, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si les autres y sont tombés, ben, quelque part, ils n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit. Hein. Presque c'est bien fait pour eux. Vous croyez que c'est ça? Moi je ne le crois pas. Pas une seconde. Moi je crois que les œuvres que nous faisons sont mues par Dieu et que tout est sous le contrôle de Dieu et c'est Dieu qui nous dirige. Effectivement, Paul nous encourage à persévérer, Paul nous encourage à travailler, Paul nous encourage à être des bons soldats, Paul nous encourage à courir la course pour aller jusqu'au but. Mais ce but, c'est lequel? C'est lequel? C'est de porter du fruit, le plus de fruits possible. C'est pas pour gagner notre salut, c'est pour enrichir notre vie chrétienne sur terre. C'est pour parler aux autres, toucher des âmes, servir le royaume de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre seul but, non seulement de plaire à Dieu, et c'est sa volonté, c'est de travailler pour lui, mais aucunement pour nous assurer la vie éternelle. La Bible nous dit que nous aurons des récompenses. Effectivement, oui. Mais ça, c'est un autre domaine. C'est-à-dire que le travail que nous aurons fourni, à condition qu'il soit mû par le Saint-Esprit et pas par notre volonté propre, oui, nous aurons des récompenses. Alors, je ne pense pas que ça ne sera certainement pas des récompenses comme le monde nous offre. Certainement pas. Elles auront une autre valeur et une autre profondeur. Oui, certainement, oui. Nous passerons tous comme au travers du feu, et les œuvres que nous aurons faites sur cette terre, eh bien, passeront aussi au travers du feu. Et ce qui était fondé, ce qui est purifié comme l'or, ce qui vient de Dieu, eh bien, ce travail-là subsistera et nous aurons une récompense. Si c'est par les choses de la, si c'est par notre propre force que nous faisons les choses, eh bien, il n'y aura plus rien. Nous serons sauvés, nous aurons la vie éternelle, mais nous n'aurons pas de récompense. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler pour, dans le but d'une récompense, hein, je ne dis pas ça. Travaillons pour plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, c'est justement que nous gardions ses commandements et que nous marchions en pureté et en sainteté de vie avec lui. Je vais lire rapidement les derniers, puis je terminerai. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. C'est exactement, je trouve, la même idée que tu nous as lu, Luc, tout à l'heure, le passage de Romains. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est vraiment ça. Mes brebis, c'est ses enfants. C'est lui qui nous choisit. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Il n'y a pas une condition de dire, si jamais ils chutent ou s'ils me renient ou quoi que ce soit. Non. Elles ne périront jamais et personne, pas même nous-mêmes, parce que sinon ça serait dit, personne, excepté celui qui choisit, ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et certainement plus grand que nous-mêmes et personne ne peut les arracher de la main du Père. Éphésiens 6, verset 16, « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et pourquoi je lis ce passage, qui semblerait n'a aucun rapport avec les autres ?« Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, c'est une des armes du chrétien. » Le casque du salut. Si on n'est pas sûr d'être sauvé, on ne peut pas le mettre, le casque du salut. Moi, je suis désolé, hein. Si je ne suis pas sûr que je vais arriver jusqu'au terme de ma vie chrétienne et avoir la vie éternelle, comment je peux dire que je suis sauvé ? Le casque du salut, c'est dans l'épreuve, dans les moments difficiles et dans la chute également. Vous savez que Jésus a payé le prix, qu'il a payé le prix pour vous sortir de l'esclavage de Satan. Voilà. L'esclavage de Satan. Nous étions esclaves du diable auparavant. Et nous avons été rachetés à grand prix. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter ? Ça veut dire qu'il a payé le prix, donc il a donné la rançon, et nous lui appartenons. Est-ce que vous pensez que Dieu, le Tout-Puissant, permettrait à qui que ce soit, et un esclave évidemment, de se dire, tu vas t'affranchir maintenant, j'ai payé le prix, tu peux faire ce que tu veux, et retourner vers ton ancien maître ? Vous pensez ça ? Un esclave, écoutez bien, un esclave, il n'a aucun droit sur lui-même. L'esclave, il va de main en main. Souvenez-vous, Joseph, il était acheté par ici, vendu là, etc. Il n'avait aucun choix. Si jamais l'esclave s'échappe, qu'est-ce qui se passe ? On va le récupérer, on le met en prison et on le punit. Mais il reste toujours esclave. D'esclave de Satan, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Mais ça va plus loin. Nous ne sommes plus esclaves, mais fils de Dieu par adoption. Et la Bible nous dit, je n'ai pas le passage, je l'ai lu, la Bible nous dit ceci, un fils demeure avec son père. Voilà. De la même façon qu'un esclave est attaché à son maître par la loi, un fils est attaché à son père par la nature. La nature que Dieu nous a donnée fait que nous sommes enfants de Dieu. Et un enfant ne peut pas renier son père, ce n'est pas possible. Il peut s'éloigner, il peut faire ce qu'il veut, mais il appartient à son père, il est de la même famille. C'est donc sur cette assurance de notre salut en Jésus et par le Père que je voudrais terminer ce message. Nous avons un Dieu bon, souverain, saint et juste. Et si nous nous tenons debout, si nous persévérons, ce n'est certainement pas grâce à nos efforts, car sans son aide, et je suis là pour vous le dire, nous ne serions voués qu'à l'échec. À Dieu soit toute la gloire. Au siècle des siècles. Amen.